Shalom, bonjour. Je m'appelle Yaël, je suis formatrice de démarches collaboratives et facilitatrice en intelligence collective. Et ici, on va continuer de faire l'étude de quelques aspects de la paracha de la semaine à travers le Zohar. La paracha cette semaine, ce sera la paracha Ki Tetzé. C'est une paracha du livre de Deutéronome, c'est une paracha à la fin du Pentateuque, et on va continuer le fil rouge de l'ensemble de ces études qui sont comment le Zohar lit, interprète, comprend quelques aspects de la paracha avec son propre regard. Pour rappel, le Zohar, c'est un commentaire mystique de la Bible, c'est l'ouvrage principal de la Kabbale. La Kabbale, c'est la mystique juive moyenâgeuse. Des bibliothèques entières ont été écrites sur le Zohar. Le Zohar est un livre enchantant, enchanteur, et ça vaut la peine d'aller plonger dans son monde. Donc ici, on va juste plonger dans deux espaces différents, deux thèmes, et on va voir un peu le goût du Zohar par rapport à la paracha. Premier axe, la paracha Ki Tetzé, c'est une des parachot avec le plus de commandements, le plus de mitzvot parmi les parachot de la Bible, parmi les sections hebdomadaires de la Bible. Et contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, le Zohar comme texte mystique, on aurait pu dire, il ne prend pas trop en importance l'aspect concret des mitzvot. C'est tout à fait pas ça. Pour le Zohar, les mitzvot, les commandements sont essentiels et il apporte un regard en profondeur vers ces mitzvot-là. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le Zohar reprend une expression du Talmud Psachim, donc d'un passage du Talmud, et par rapport à la qualité de l'action. Voyons ce qu'il dit. Le Zohar dit, donc dans la paracha Ki Tetzé, Le olam, dans la traduction en hébreu, le olam yasok adam ba Torah, afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma, balishma. Ça pourrait se traduire en français comme un homme doit toujours s'engager dans l'étude de la Torah, même si ce n'est pas en son nom, car même à partir d'une pratique qui n'est pas en son nom, on en vient à une pratique en son nom. De quoi on parle? Son nom, ça fait référence au nom du Saint béni soit-il, le nom qui n'est pas disable, qui n'est pas prononçable par l'humain. Et, c'est-à-dire une action qui n'est pas en son nom, qui n'est pas adressée ou orientée au Saint béni soit-il, à Dieu, en monde haut, comme le nomme le Zohar parfois. C'est une action du coup qui est pour d'autres choses. Pourquoi le Zohar et le Talmud ne détaillent pas ici, dans le traité Psachim? Mais on pourrait dire que c'est une action qui peut être une action qui est faite pour des mauvaises raisons, pour des raisons égoïstes, pour plaire, pour du pragmatisme, pour quelque chose qui n'est pas pour quelque chose qui est plus vaste que soi. Et le Zohar nous dit, il faut s'engager dans l'étude de la Torah et le commandement de mitzvot, dit aussi le Talmud. Parce que du fait de faire non à son nom, advient l'action en son nom, comme si le fait de ne pas faire apporte quelque part. Donc ça, pour l'instant, le Zohar a juste repris ce qui était déjà dit dans les commentaires et la tradition et de la réflexion hébraïque bien avant lui. Mais le Zohar ajoute plus loin, dans cette même paracha, donc Ki Tetzé, cette phrase suivante que je trouve très intéressante, et il dit, en hébreu, ça serait « En mitzvah shelo nichlelu sham eser sefirot ». Et en français, ça pourrait être chaque mitzvah où il n'y a pas de mitzvah dans laquelle qui ne comporte pas l'ensemble des 10 séphirot. C'est-à-dire, chaque mitzvah, chaque commandement comporte l'ensemble des 10 séphirot. 10 séphirot, difficile, voire impossible d'expliquer ce que c'est, puisque c'est du monde d'en haut et de l'invisible. Mais pour le balbutier, on pourrait dire, ce sont les 10 manifestations divines, 10 attributs divines, et qui nous enseigne et nous renseigne sur ce que justement on ne sait pas et on ne connaît pas, mais c'est une façon de voir, comme dit Cordovero, les parures, les vêtements de ce qui est au-delà de ces vêtements et qui autant dissimule que ce qui simule, autant simule que ce qui dissimule. Mais en tout cas, ce sont les représentations du monde divin dans le Zohar. Et donc, ça veut dire que chaque chose qu'on fait, chaque commandement comporte l'ensemble de ces éléments divins. Même si je n'ai pas conscience, ça comporte. Et donc, c'est intéressant que le Zohar nous dit ça. Lui, avec tout son travail d'enquête, de connaissance et de rencontre mystique, nous dit, oui, peu importe ce que vous allez faire, la conscience avec cette action, ça comportera en fait et ce monde divin dedans. Donc c'est comme si chaque action est comme une graine de l'ensemble de l'arbre des séphirotes, l'ensemble du monde en haut. Chaque action, elle comporte du plus petit le plus grand et le plus grand le plus petit. C'est pas coupé. Il n'y a pas de kitsutz banetiot, il n'y a pas une rupture dans les boutures, comme se dit parfois dans le Zohar. Et donc, comme toutes les séphirotes s'y trouvent dans chaque petite action et mitzvah, l'action faite, sans forcément avec intention ou conscience du plus vaste, pourrait avoir une force en elle-même qui agira ensuite sur l'homme comme créatrice de conscience. Puisqu'elle a en elle-même ces éléments-là du monde en haut, et donc du coup c'est comme si l'action elle-même va créer cette transformation tout doucement vers l'Ishmo, vers en son nom. J'ai l'impression que le Zohar ici nous enseigne, nous encourage à toujours rester reliés à l'ensemble, au tout. De ne pas croire que si je fais une action spécifique, pas quelque chose à quelque chose de très concret, ça va agir juste là. Non, ça aura une répercussion bien plus vaste sur l'ensemble du visible et l'invisible. En fait, le Zohar nous éduque à un travail concret, à se relier à l'unité, et aussi à un travail à l'humilité. Parce que si je commence à croire que je peux faire appuyer ici et ça fait ça et ça fait ça, je peux me croire dans une idolâtrie et dans une surpuissance d'un travail mécanique. Mais non, chaque action elle révèle tout et moi je n'ai pas les clés précisément de tout. Ça peut dialoguer avec la réflexion de Cordovero qui nous dit « Elav velo le midotav ». Nos actions elles sont adressées à lui, Elav velo le midotav, et pas à ses attributs. Je ne suis pas en train de pouvoir orienter, je reste vers le 1. Donc le Zohar, même s'il développe tout ce panoptique magnifique de l'arbre séphirot, nous enseigne toujours et encore de retourner et d'être dans l'unité du 1, et du 1 est plus vaste et plus grand, du Ein Sof, qui réside à l'intérieur intimement du monothéisme. Voilà, c'était du coup le premier axe de ce regard du Zohar sur Mitor Shelo Lishmo, Balishmo, non en son nom, vient en son nom, à travers sa lecture de En Mitzvah, Shelon Ichlelush Ameser Sefirot. Il n'y a pas de commandement dans lequel il n'y a pas eu 10 séphirotes qui étaient intégrés et qui comportent du coup un nouvel éclairage et avec cette touche mystique de tout est dans le 1, les 10 séphirotes dans chaque petit commandement et qui apportent elles-mêmes vers le Lishmo. Deuxième partie de cette étude est sur ce verset suivant du Deutéronome. Ki kach ish isha chadasha lo yetze batzava velo yavor alav lechol davar naki yeh leveito en français, si quelqu'un a pris nouvellement femme, il sera dispensé de se rendre à l'armée et on ne lui imposera aucune corvée. Il pourra vaquer librement, il sera pur, naki, dans sa maison à son intérieur pendant un an et rendra heureuse la femme qu'il a épousée. Donc c'est aussi un verset de la paracha qui était tse et voici ce qu'il dit le Zohar dessus. Le Zohar va dire, va reprendre d'abord le début de ce verset, et après il va dire que l'homme, il doit passer 12 mois pour traverser les 12 mois de l'année parce que chaque mois est comme une des dames qui accompagne la mariée. Et donc, lui, le mari, le jeune marié, doit vivre les 12 mois pour que lui il puisse être traversé par l'ensemble des dimensions du féminin de sa femme et que elle, dit un des commentaires du Zohar, puisse aussi être traversée par ces dimensions-là. Comme s'ils ont besoin d'avoir toute une traversée commune d'un chemin en tant que jeune couple. Lui, il a besoin d'avoir le féminin de sa femme, de ses 12 mois qui sont comme ses dames. Et elle, elle a besoin d'avoir cette dimension à la fois du féminin et du masculin à travers ce cycle de l'année. Ce qui est très intéressant, c'est que le Zohar le comprend effectivement au sens symbolique, parce que quand il parle du marié et de la mariée, de l'époux et de l'épouse, on sait aussi tout de suite qu'il parle de Malchut et de Tifer, et de deux dimensions de l'arbre de Séphiroth. Et donc c'est comme si le Zohar nous enseigne que Tiferet, lorsqu'il épouse Malchut, il a besoin d'un cheminement pour pouvoir arriver et résider auprès d'elle. Et il a besoin d'un cycle de 12 pour ça. 12 tribus, 12 mois, 12 symboliques d'un temps. Et c'est intéressant qu'il a besoin de tout ça avant d'aller à l'armée. C'est comme si il a peut-être besoin d'être ancré, incarné dans le monde en bas avant d'aller dans une action qui pourra l'amener dans une grande dépassement de soi, parfois une action virile et violente qui peut... suite à l'élément groupal dévié. Ça peut être aussi quelque chose peut-être qui garantit que l'homme ait davantage de sagesse parce qu'il a traversé ces 12 mois, ces 12 dames et qui sont devenues du coup une partie de lui, ces 12 éléments, comme s'il a besoin de ce féminin pour pouvoir aller à l'armée, pour pouvoir être habité pour ce féminin et aller à l'armée avec tout ça. Davantage de discernement, davantage de sagesse. Dans le Deutéronome, quelques chapitres avant, il est dit effectivement, on parle de nouveau de ce principe-là et on parle de trois conditions et qui doivent être remplies pour que l'homme puisse aller à l'armée. Et il faut que l'homme ait abouti la première année de mariage, que s'il a construit une maison, que la maison soit construite, et s'il a une vigne, qu'elle puisse être cueillie. Comme si l'homme doit aller à trois cycles d'aboutissement avant de pouvoir aller à l'armée. Comme s'il a besoin de ralentir le hâtage possible ou l'urgence possible d'aller à la guerre pour pouvoir garantir que le monde en bas soit bien accompli, à la fois au niveau de son couple, de sa relation au féminin, de sa demeure, de sa matérialité et aussi du fruit de la terre. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le mot purifié, qu'il doit être naki, qu'il doit être pur. Et le Zohar et ses commentaires reprend ça, comme si la pureté doit être complète pendant cette année, il ne doit pas être abîmé cet homme pendant cette année pour qu'il puisse vivre ce cycle de l'année avec sa femme. Et donc, aller à l'armée, ça sera juste après, comme si la relation de son couple, de sa maison, de sa vigne, elle est première à aller à la guerre. Et pour ça, son alignement est important, puisque effectivement, ça sera aussi le fruit de la suite. Et que son rapport à lui avec sa femme est bien sûr le reflet de la relation masculin-féminin du monde en haut. Donc, on n'est jamais qu'à une histoire humaine quand on parle dans le Zohar. Il ne s'agit jamais juste d'un homme et une femme. C'est toujours le reflet de la relation d'amour et du lion, de ce qui se passe aussi dans l'arbre de Séphiroth en haut. Ce passage-là pourrait faire penser à un autre passage du Zohar. Le commentaire du Zohar sur la paracha Vayetse de l'histoire de Jacob et Rachel. De la rencontre de Jacob avec Rachel lorsque Jacob dit à Laban, le père de Rachel, « Je travaillerai pour toi pendant 7 ans. » C'est Jacob qui a nommé le chiffre 7 ans. Ce n'est pas Laban qui lui a demandé. Et le Zohar et d'autres commentateurs demandent « Pourquoi 7 ans ?» Et voici ce que le Zohar répond à ça. Le Zohar sur la paracha, donc Vayetse. Il s'agissait, selon la sagesse, car la lune a l'âge de 7 ans. Et les 7 ans d'en haut purent s'installer sur Jacob avant qu'il épouse Rachel, de sorte qu'il s'établisse auprès d'elle impeccablement. Jacob les prit donc tous d'abord, ensuite il vint vers elle afin que lui se retrouve ciel et elle terre. C'est-à-dire que Jacob a proposé 7 ans à Rachel pour que lui, il ait le temps de passer à travers les 7 années, les sept dimensions, les sept années sont l'écho des sept séchirot d'en bas. Lui, il avait besoin de les comporter en lui, les traverser pour qu'il puisse après passer peut-être de Jacob à Tiferet et du coup être ciel, qui est un des noms, un des reflets de Tiferet, et elle, terre, Malchut, Rachel, la terre. C'est-à-dire que lui, il avait conscience quand il a proposé les sept années, il avait conscience de ça, et il a proposé les sept années pour son propre chemin d'initiation, d'accomplissement. Et ce qui est intéressant dans le Zohar, c'est que ici on parle du fait que Jacob avait besoin de ce temps-là, non pas forcément Rachel ou Malchut, mais c'était le besoin de Jacob pour se parer, pour qu'il vienne, comme c'est beau dit, Jacob les prie donc tous d'abord, et ensuite il vint vers elle, afin que lui se retrouve ciel et elle terre. Donc il a pu du coup venir avec tous un en lui, grâce à ces sept années. Et donc on a dans le passage de Kitetsé dans le Zohar une traversée de 12 mois, d'une année, de ces dames qui accompagnent la Malchut, la mère d'en bas, la mariée. Et ici, dans la paracha Vayetse, dans le Zohar, avec l'histoire de Jacob et Rachel, on a les sept années qui sont aussi des éléments qu'il faut traverser. Ça pourrait parler du fait que voilà, les années, le temps, les mois sont des espaces symboliques qui reflètent aussi la présence divine et qu'il faut vivre et il faut être. On ne peut pas faire l'économie du temps, on ne peut pas faire le fast-fooding et en un clin d'écran à y arriver. Il faut avoir ce temps-là qui sont dans l'ouvrage de l'homme à faire. Parce que le temps, il est comme un miroir du monde en haut. Le temps est comme le regard est concret que le monde en haut porte vers le bas. Et donc, il y a besoin de se charger de ces étincelles à travers toutes ces fractions de secondes, minutes, heures, semaines, mois, années. Et que ce temps-là, c'est un temps qui peut être engrangeant de sagesse et d'introduction au monde en haut. Ce passage-là dans Kitetsé me fait penser à autre chose du Zohar, un autre élément très intéressant. Et le Zohar sur la paracha est mort et dans l'invitation, la demande du Saint béni soit-il, du masculin d'en haut vers le féminin, et il dit d'abord en hébreu Petrili, Petrili petach, ke pitro shel machat, vani iftach lachem sha'arim elyonim. En français, ça pourrait être ouvre-moi une ouverture aussi petite que le chat de l'aiguille, et je vous ouvrirai les portes d'en haut. Car mes fils n'entrent pas chez moi, mais en toi. Tu es l'ouverture pour m'y entrer en toi. Si tu n'ouvriras pas ton ouverture, alors je suis fermée et ils ne me trouveront pas. Un passage et pour lequel je remercie Hadassah Fruman, parce que c'est elle qui nous l'a enseigné il y a quelques années, comme la vulnérabilité du monde en haut, la vulnérabilité du Saint béni soit-il, qui dit « Moi, je ne peux pas avoir une action dans le monde en bas si vous, vous ne faites pas la première action. Si vous, vous n'ouvrez pas une petite ouvrante, même comme le petit chat de l'aiguille, moi, je ne pourrais rien faire. Mais si vous vous ouvrez le tout petit, petite ouverture comme le chat de l'aiguille, là je pourrais ouvrir des portes et célestes énormes. Mais si vous ne le faites pas, moi je ne peux rien faire. » Donc c'est vraiment l'invitation à l'action d'en bas, à l'action du monde en bas qui est ici vu dans sa féminité par rapport à la masculinité qui peut être puissante du monde en haut mais qui est dépendante et qui du coup est vulnérable par le monde en bas. Et qu'on a besoin de ça. Et donc ça peut encourager à faire, et ça peut être en écho effectivement et au premier passage. Personne d'autre pourra le faire sauf l'homme. Et le Saint béni soit-il est dépendant de l'homme. Pour conclure, dans cette petite étude sur la paracha Kitetsé et le regard de Zoharique dessus, avec quelques échos d'autres parties du Zohar, Ce qu'on a pu voir ici, c'est que l'action de l'homme, de l'humain, est essentielle, est indispensable. Le monde en haut, le monde céleste, le monde divin, ne peut rien faire concrètement si l'homme n'agit pas en premier. Le monde en haut a besoin pour ça de l'homme. Et même une toute petite action, même un tout petit mouvement peut amener des grandes ouvertures de portes. Trilipatar Kapitrochel Mahat ouvre une porte, même tout petit comme le chat de l'aiguille. Et ça pourrait faire penser à l'histoire amazonienne du colibri. Vous savez, le colibri est, qui continue d'apporter de l'eau goutte à goutte quand le feu consomme la forêt et il dit « peu importe, je continue d'apporter mes gouttes, même si je ne pourrai pas sauver, je fais ma part ». Et ça fait faire penser aussi à un hadith, un commentaire musulman qui est très beau aussi, qui dirait quelque chose comme « si la fin du temps venait à survenir alors que l'un d'entre vous tenait dans sa main une plante, alors s'il peut la planter avant la fin du monde, qu'il le fasse ». C'est que si on a quelque chose à faire, même si on a l'impression, ou même si c'est vraiment la fin du monde, c'est à nous de faire, c'est à nous d'apporter cette action-là. Merci d'ailleurs à Johan et Melissa pour ce beau hadith. Donc, c'est à l'homme de faire son ouvrage. C'est ce que les deux passages de ce Zohar nous enseignent. Et il vaut mieux une action pas précise, pas orientée, même pas orientée en son nom, pas orientée vers le monde en haut, que ne rien faire, que juste étudier. C'est dit ailleurs, je préfère l'action pas ajustée ou pas accordée que juste l'étude, juste le commentaire. Parce que le fait même de faire apporte à une action en son nom. Mitor shel lishmah, ba lishmah. Puisqu'aussi, on s'exerce, on est en mouvement, il y a du mouvement dans l'arbre de vie. Et aussi, comme on a vu, parce que chaque commandement comporte les 10 séphirotes, donc il y a quelque chose qui s'incarne et qui se manifeste de toute façon grâce au fait de faire. Et on a vu aussi que l'espace-temps est un espace symbolique qui est le reflet qui comporte aussi le monde en haut, et qu'il faut le traverser, et qu'il y a la sagesse du temps long et du temps cyclique, le cycle de l'année, le cycle du mois, le cycle de la semaine. Et il faut vivre ce temps-là pour se remplir de ce que la sagesse des séphirotes, la sagesse du monde en haut peut apporter. Il n'y a pas de raccourci. Comme le nouveau époux doit être une année avec sa femme pour qu'il puisse aller et affronter la guerre sans perdre peut-être sa sagesse, son discernement. Comme Jacob a dû travailler 7 ans pour se remplir de 7 séphirotes de sagesse de Rachel avant qu'il puisse pleinement rencontrée, et la Rachel est terrestre qui comporte elle-même les dimensions de Malchut. Et bien, pour finir cet enseignement, j'espère que nous puissions ouvrir une porte, même toute petite, comme le chat de l'aiguille, et planter la plante que nous portons dans nos mains, et discerner avec sagesse l'ouvrage de vie. Amen.